Alors j'en profite pour, pendant ce temps-là, pour présenter Céline Gaungou. Donc, elle a soutenu en 2016 une thèse de doctorat d'État à la Sorbonne, consacrée à Sonny Labutancy et intitulée « Élan et devenir ». Sonny Labutancy, 1967-1975, naissance d'un écrivain et d'une écriture. J'ajoute qu'elle a collaboré au volume des poèmes de Sonny Labutancy, qui a été dirigé par Claire Riffard et Nicolas Martin-Granel, et qui est le gros volume des poésies publiées par CNRS Éditions en 2015. Voilà, donc je lui laisse la parole maintenant.
Alors, mon propos portera sur les premiers écrits de Sonny Labutancy, les écrits poétiques, romanesques et aussi théâtraux, ensemble, qu'on pourrait dire assez mouvants, d'invention thématique, de bifurcation stylistique, où se manifeste la conscience aiguë. Je reprends là une expression de Sonny, dans une lettre adressée à Françoise Ligier le 4 mai 1974, que tout est à faire et que rien n'est figé, ni l'œuvre, ni son créateur. L'articulation du biographique et de la génétique dans mon propos sera double. À la lumière de la correspondance nouée au début des années 70 avec José Pivin et Françoise Ligier, correspondance publiée en 2005 par Nicolas Martin-Granel et Greta Rodriguez-Antoniotti, dans le premier volume de l'atelier de Sonny Labutancy, le chercheur se trouve face à un matériau biographique qui, loin de donner lieu aux dérives, c'est une citation du sottisier biographique moqué par Jean-Claude Bonnet dans son article « Le fantasme de l'écrivain », sottisier qui, selon lui, a condamné une partie de la critique à une vision psychologisante de la littérature, ce matériau de la correspondance permet, parfois pas à pas, de suivre la genèse, de comprendre la genèse de l'écriture sonnienne. Dans cette correspondance, Sonny évoque ses chantiers d'écriture. Parfois, il s'agit uniquement de titres énigmatiques qui ne correspondent à rien de ce qu'on a pu retrouver dans ses archives. Par exemple, « Les apprentis connards » ou « Le cochon » de son excellence. Parfois, la genèse de certaines œuvres est quasi reconstituée. Et cela est encore plus vrai dans les lettres adressées à Françoise Ligier, où il lui arrive même de solliciter des conseils et il lui arrive également de réécrire ses œuvres en fonction des remarques de son ami. Tel fut le cas notamment de « Je sous signé cardiaque ». J'en donne une citation. « Pour le cardiaque, tu as raison, je refonds tout. Il y avait du superflu et des vides. Tu verras que ce sera très solide cette fois. » Cette lettre est datée du 12 octobre 1974 et grâce à une lettre précédente, qui était quant à elle datée du mois d'août, on comprend que le chantier de ce qui s'intitulait initialement « Je sous-signais salopard » a débuté au cours de l'été, après l'échec de la gueule de rechange, pièce dont la genèse, canevas, changement de titre, refonte, retard et même marathon final, c'est l'expression qu'il utilise, est restituée. La seconde articulation que j'évoquerai se situe non plus en amont de l'œuvre dans la correspondance, mais dans l'œuvre elle-même. Et pour la comprendre, il faut consentir à un effort d'imagination et songer, l'espace de quelques instants, à ce que peut être la situation d'un écrivain à ses débuts lorsque tout est à faire. L'une des difficultés à laquelle il est confronté est la création d'un univers, d'une voix, d'un style, d'intrigue, de lieux, de personnages, de schèmes structurants, bref, en un mot, d'une matière dont l'écriture sera constituée et qu'elle va traiter d'un genre à l'autre. Devant le spectacle des premiers pas d'un écrivain, une question ne peut manquer de venir à l'esprit du lecteur. Comment élucider l'énigme de l'entrée en littérature et expliquer qu'un apprenti, un novice, va progressivement vouer son temps et son énergie à l'écriture? Et le cas de Sonny est intéressant car, à la différence de bien d'autres écrivains débutants, il ne part pas en quête de son matériau littéraire en se livrant de longues séances de lecture dont le but serait d'ouvrir les vannes de l'inspiration, puisque l'élan qui l'habite le conduit tout naturellement à se choisir comme sujet et comme objet de son écriture, pas seulement dans les poèmes, mais également dans les romans et dans une moindre mesure dans les premières pièces de théâtre. Peu de filtres sont utilisés dans les cahiers qui apparaissent au début de sa trajectoire comme des espaces protégés. où tout peut s'écrire, beaucoup de choses peuvent s'écrire, tout se passant finalement comme si les manuscrits devenaient la surface de projection, d'affect, de pulsion, où le cœur explosif, c'est un adjectif tiré de la poésie, le sauvage vertige, peuvent s'énoncer. Et sauvage vertige, hein, c'est aussi une expression tirée de Vers au vinaigre, l'un des premiers recueils poétiques. Cette démarche transparaît dans une lettre envoyée à Françoise Ligier le 20 juin 1974, où sont évoqués avec beaucoup de détails la genèse et les développements de l'une des versions de Ripostée à sa gueule, version demeurée introuvable dans les archives, mais dont l'on comprend bien l'esprit grâce à la longue description de l'intrigue et des péripéties à laquelle Sony se livre. Au détour d'une phrase, voici ce qu'il écrit à Françoise Ligier. « Il faut chercher, tu comprends, fouiller jusque dans son propre sang. » L'expression est en rapport avec l'écriture enragée qu'il invente à cette période, polarisée par la politique et la haine à l'encontre du Parti congolais du travail qu'il voudrait, je reprends un verbe qu'il utilise, « fracasser ». Il serait cependant possible aussi de donner une autre signification à cette formule, fouillée jusque dans son propre sang, à l'aune de l'intrigue de Ripostée à sa gueule, un temps intitulé « La planète des signes », dont le héros Franz présente bien des points communs avec lui. Et dans cette perspective, la formule pourrait désigner la mécanique parfois transparente, quasi douloureuse de la création, qui exhume de l'existence la matière première de l'écriture, de l'œuvre en construction. Et instaurant une confusion entre le cœur et la page, d'ailleurs la préface du roman dont on a conservé la version, celle que l'on a conservée, cette préface porte aussi sur cette opération, on peut lire dans la préface, « En crevant ce cœur qui me servait de refuge, je trouve un refuge qui me servira de moi ». Et il est vrai que quand on regarde les premiers écrits, on se rend compte que Sony fabrique ses premiers textes à partir de lui-même, créant une sorte de microcosme où il se dit et s'écrit au fil des pages. Un indice énonciatif suggère l'importance de ce phénomène, l'omniprésence du pronom « je » dans les manuscrits poétiques, évidemment, mais également dans les manuscrits romanesques, puisque de rembourser l'honneur jusqu'au massif de la raison, le pouvoir et le béret, on s'inscrit dans une sorte de dynamique du moi hypertrophié. Les accents très personnels de la poésie, c'est un petit poète, c'est une expression qu'on trouve dans Vers au vinaigre, dont on voit l'autoportrait fragmentaire au fur et à mesure des poèmes. Et l'usage de la narration autodiégétique dans les romans ne doit cependant pas nous induire en erreur, puisque les œuvres composées au cours de cette période ne relèvent pas pour autant d'une veine autobiographique. Il n'y a aucun moment un pacte qui serait scellé avec le lecteur, et Sony ne prend aucun moment l'engagement de faire le récit de sa vie. Les manuscrits, qui absorbent anecdotes et expériences vécues, ça ne s'apparente pas véritablement non plus à l'autofiction, puisque si il est vrai qu'on a des effets de vie, j'emprunte l'expression à Marie Darieussecq, qui sont évidents dans une partie des manuscrits romanesques, poétiques et théâtraux, Sony à aucun moment ne consent à payer de sa personne et il n'apparaît jamais sous sa véritable identité dans les romans. Son univers, qui intègre partout souvenirs et menus événements de la vie quotidienne, relève davantage de l'autoportrait fragmentaire. À l'aube de sa trajectoire, il n'éprouve pas le besoin de donner une vision totalisante de son existence et, dans le miroir en éclat de ses textes, transparaît le reflet non pas d'un écrivain consacré, mais d'un être en devenir. À ses débuts, l'écriture de Sony se nourrit l'expression se trouve dans la correspondance, il parle de choses vécues jusqu'à la racine. Et cette formule suggère à quel point les textes de jeunesse sont fondés sur une transformation de l'existence en matériaux littéraires. Et c'est sur un mode parcellaire que les souvenirs d'enfance et d'adolescence sont convoqués. Loin de se limiter à l'emblématique poème « Que griffonne », poème des origines, qui met en scène, je le cite, un enfant noir en butte à l'institution scolaire et qui symboliquement opère une confusion entre le sexe et l'écriture, métaphore du corps écrivain donnant à voir une énonciation radicale et charnelle, je cite le poème, dans sa poche percée, au lieu d'un morceau de fusain, c'est le sexe qu'il se prend entre pouce et index. Donc loin de se limiter à Que griffonne, les bribes rêvées, fantasmatiques de cette jeunesse figurent dans bon nombre de poèmes. L'ennui accablant ressenti par l'élève pendant les heures de classe, son animosité à l'encontre des professeurs font partie des sujets traités dans Vers au vinaigre. J'en donne une citation, le professeur fait son cours, je fais mon poème, la craie est raciste, c'est pourquoi je ne suis jamais, que serait la craie sans le tableau noir ? Cette écriture donne la sensation que les textes ont été rédigés sur le vif lorsqu'ils se trouvaient encore sur les bancs du lycée. J'en donne un autre exemple. « Maintenant, regardez-moi, je prends mon cœur, je m'embarque pour l'exil et je sèche votre vie comme nous séchons les cours de maths. » Bien qu'il faille prendre garde à la scénographie saunienne, un indice pourrait confirmer cette impression, la Genèse de Monsieur Toucourt, pièce envoyée hein, qui concourt au concours théâtral interafricain en 69, Genèse évoquée en ces termes par Françoise Ligier. Donc je cite Françoise Ligier qui cite ensuite Sony. L'auteur était conscient de ne pas offrir un chef-d'œuvre et s'en excusait, expliquant qu'il avait écrit cette pièce au lycée, sur ses genoux, pendant les heures d'études. Et l'essai de Jean-Michel Devesa, Sony Laboutancy, écrivain de la honte et des rives magiques du Congo, recoupe cette analyse, puisqu'il est évoqué une lettre datée du 5 décembre 68, dans laquelle, donc je vous cite, dans laquelle il se présentait en ces termes, et là c'est Sony qui parle, « Sans désir aucun de réveiller votre clémence, je juge nécessaire de vous apprendre que je suis un débutant qui voudrait un jour aller plus loin et que, si je me présente à un concours, c'est dans le seul but de m'offrir une chance d'être lancé ou seulement remarqué. » Et les affres de l'adolescence excèdent les seules bornes des recueils poétiques pour apparaître également dans les romans. Dans les confidences qu'il adresse à Bernard Magnier en 93, dans une émission radiophonique, un épisode mémorable est transposé d'Henri Posta à sa gueule. Hein. Au cours de l'entretien radiophonique, Sony se remémore les frasques d'un professeur de géographie et les altercations qu'il avait eues avec sa classe. Et on apprend, donc, dans ses confidences qu'il adresse à Bernard Magnier, que leur relation se détériore lorsque le professeur en question, qui est un coopérant français, demande à ses élèves, je cite Sony, d'écrire que les rues de Brazzaville servent de fumier. Ce souvenir douloureux est littéralement retranscrit dans Riposte à sa gueule, composé au début des années 70, je cite l'extrait en question. La poussière, la boue par endroits et les odeurs, ça me rappelle un coopérant français, professeur au lycée Savorgnan. Son cours était toujours semé de petites boutures d'injures aux nègres. Un jour, il fallait écrire dans le cahier de géographie que les rues de Brazzaville servaient par endroits de WC et de fumier. Je n'avais pas la force d'encaisser cette injure. Et au cours de l'entretien, on voit quelle mesure a pris sa révolte. Et dans les poèmes et aussi dans les romans, est évoquée l'intimité hein, du foyer familial. Par exemple, on a dans Rembourser l'honneur des scènes où sont évoquées, par exemple, les odeurs de la famille qui s'appellent, se mêlent et qui donnent lieu à une intimité quasi fusionnelle et organique où flambent les cœurs, magie du royaume d'enfance qui transparaît notamment dans Vers au vinaigre, La vie privée de Satan, Les yeux de l'espoir et Rembourser l'honneur. La figure des grands-parents constitue un exemple symbolique. Le poète et Alléluia, alors Alléluia est le héros du roman lacunaire Rembourser l'honneur, éprouve une fascination similaire à leur égard. Le premier évoque l'entêtement de l'aïeul qui, luttant contre la faim, manie la houe avec dextérité afin de faire surgir la vie, et le second regarde avec transport la vieille aux gestes rongés de rhumatisme. Un imaginaire lié à la mère hante également ces différents textes. Les premières pages de Rembourser l'honneur portent sur les observations d'Alléluia qui guette avec avidité les moindres gestes de sa mère, depuis une fenêtre, et la version la plus aboutie de Vers au vinaigre chante la figure maternelle comparée à une étoile filante noire. Le septième poème des yeux de l'espoir amplifie ce mouvement, car cette rêverie, l'inséparabilité de la mère et de son fils, prend corps dans l'espace magique du poème. « Mère, tu sais, je flotte encore dans tes hanches, je tangue encore dans les premières douleurs de l'enfantement. » L'enchantement ne dure pas, puisque « secouant l'enfance », c'est une expression tirée de « Rembourser l'honneur », l'écriture s'intéresse aussi à des personnages parvenus à l'âge d'homme et qui offre bien des points communs avec Sony. Par exemple, Monsieur Toucourt, Rembourser l'honneur, La planète des signes, Riposte à sa gueule et Je sous signé cardiaque présentent une caractéristique commune. Leurs personnages principaux sont de jeunes enseignants, tantôt déplacés au gré des affectations administratives, tantôt victimes du mépris de leurs concitoyens. Leurs difficultés font songer à l'expérience de Sony. Conta, dans Monsieur Toucourt, est un instituteur dont l'existence routinière est transfigurée par la lutte politique contre un chef d'État sanguinaire. La situation de Malo, dans Je sous signé cardiaque, est encore moins enviable. À l'instar d'Alléluia, présenté comme le jouet d'un gouvernement qui décide, Malo est une, je cite, une petite machine à enseigner dont la République du Léwango n'a que faire. Quant à Franz, s'il a lutté dans la clandestinité contre un pouvoir détesté et tient un discours qui fascine ses proches, il n'est qu'un humble, je cite, « moniteur supérieur aux yeux de la société ». En guise de conclusion, je vais tracer des perspectives relatives aux métamorphoses du roman saunien. Ce matériau biographique éclaté, fragmentaire, est de moins en moins présent au fil des romans. Donc, comme j'ai montré, un Sony mélange des éléments de son existence avec des éléments fantasmatiques, mettant en scène des héros qui lui ressemblent, mais qui sont également de grands artistes. Franz, dans La planète des signes, est un écrivain débutant, mais il fait l'admiration de ses proches qui connaissent ses textes. Hister, le héros de La raison, le pouvoir et le béret, est un poète méconnu, mais un immense prosateur. Son œuvre, à mi-chemin du roman et de l'essai, apparaît aux yeux d'une journaliste, Hortense, comme... lui en tout cas apparaît aux yeux d'Hortense comme le plus grand écrivain noir de tous les temps. Or, cette formule d'écriture qui repose sur le principe de l'autoportrait fragmentaire ne sera plus retenue par la suite. Et on pourrait se demander si ce matériau biographique finalement sera uniquement ensuite réservé à la poésie, ce genre intérieur qui donne un sens à tout ce que ça vrombit là-dedans. Cette expression-là est tirée de La raison, le pouvoir et le béret. Et un indice peut-être suggérer ce basculement entre roman et poésie, puisque dans une lettre adressée à Françoise Ligier le 6 décembre 1974, Sony évoque ses différents chantiers d'écriture et les obstacles qu'il rencontre, et il confie « J'avance mes deux projets, La raison, le pouvoir et le béret, et le monde des profils, c'est pénible parce que c'est trop près de moi. » Alors, il est difficile de savoir de quel manuscrit il parle. Est-ce qu'il parle de La raison, le pouvoir et le béret ou Le monde des profils, qu'on n'a pas retrouvé dans ses archives? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression, à mesure que sa trajectoire progresse, que pour écrire des romans, il va falloir qu'il se déprenne de soi et qu'il invente d'autres figures pour inventer son écriture romanesque et faire son chemin dans l'univers de l'édition. Voilà.
Oui, tu parles de confidence à Bernard Magnier. Qu'est-ce que tu entends par confidence? C'est une manière de parler ou c'est un interview?
C'est l'entretien.
C'est un entretien.
Oui, c'est l'entretien.
Parce que qu'est-ce qui est confidence, qu'est-ce qui ne l'est pas? En quoi c'est une confidence? Bon, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais le terme était donc c'est toc. Oui.
Alors,
c'est l'entretien qu'il a publié dans Paroles inédites, c'est ça? D'accord. Tu parles de la version orale, parce qu'il y a
un...
Version orale, d'accord.
La version orale, pas la version publiée.
D'accord, parce qu'il a transcrit et il y a des changements...
Tout n'est pas, voilà.
D'accord, tout n'est pas transcrit. Bon, d'accord.